Oui, bonjour Daniel. Bravo pour les émissions. Salut à tous les AMG. Le prochain repère de Monaco aura lieu donc samedi 29 novembre dans la salle, la grande salle de bal du palais. Voilà, bon, l'entrée est libre et gratuite. On peut amener un peu de saucisson, un petit truc à boire et tout ça. Voilà, écoutez, à très bientôt. Le sujet de la soirée, Monaco Coco.
Ouais, bonjour à tous. Là, on écoutait l'émission, là. Bon, à Monaco, on entend qu'il y a des bateaux, et moi, je suis avec mon petit garçon, là. Toi, Siane, c'est quoi que tu faisais comme bateau? Avec quoi tu faisais un bateau tout à l'heure?
Avec ma couverture.
Ah ouais? Et tu l'avais mise où, par terre?
Oui, par terre.
Et alors, tu faisais quoi avec ton bateau?
Eh bien, je pêchais les poissons pour midi.
Ouais, ça, c'est super. T'aimerais bien, toi, avoir un gros yacht qui pollue?
Un gros yacht qui pollue?
Les gros yachts, c'est les gros bateaux qui polluent. T'en voudrais un, toi?
Ah ben non. Moi, voilà. Je voudrais qu'un bateau à vol qui pollue même pas.
Ouais, bah t'as bien raison. Bon, bah voilà, Monaco, Albert, là, si tu veux nous sponsoriser, nous, on veut bien des couvertures et pour aller à la pêche, pour ramasser des poissons. T'en penses quoi, Céane?
Ouais, on va aller à la pêche.
Allez, on va aller à la pêche. Allez, salut, merci pour ces émissions, on se régale bien. Au revoir.
Oui, Daniel, Frédéric, Damien. Écoute, j'écoute ton émission là sur Monaco. Et je suis vraiment bonne émission comme d'habitude. Vraiment sidéré. C'est à se demander pourquoi et comment on a pu guillotiner le gros Capet en France pour se retrouver encore avec des territoires comme ça que j'appellerais moi presque des territoires de non-droit et de. C'est fascinant. Voilà, je voulais témoigner. Ciao et longue vie à ton émission.
Oui, bonjour, Robert du 33. Qu'est-ce que c'est ce bouffon conseiller en communication qui s'est laissé piéger comme ça? C'est le bouffon de Monte-Carlo. J'en ris encore. Allez, Berbé, continue, on t'aime.
Bonjour, c'est Olivier à Paris. J'écoute l'émission là et cette interview de ce monsieur de Monaco, mais c'est génial quoi. Merci, je rigole depuis tout à l'heure, mais c'est extraordinaire. Bravo François. C'est vraiment génial. Merci beaucoup.
Salut Daniel, salut à tous les AMG, Laurent de Lyon. Écoute, je me suis régalé pendant cette interview de M. Valéry à Monaco. Quelle hypocrisie, quelle honte, imaginons, puisque ce monsieur est un bon chrétien pratiquant. Je voyais bien le tableau avec le petit Yorkshire avec son nœud dans les poils en haut, enfin... Bon, bah, vivement qu'il aime autant les êtres humains qu'il aime ses Yorkshire. Il y aura peut-être un jour un peu d'espoir quand ça forte, mais enfin, on n'est pas sorti de l'auberge. Allez, salut à tous. Ciao.
Bonjour, c'est Sébastien, Annecy. Alors, donc, j'appelle parce que demain, on enterre la dernière paire de skis fabriquée par Salomon à Rumilly. Oui, le site ferme ses portes dans 3 semaines avec plus de 250 licenciements. Donc il s'agit d'un geste purement symbolique, bien sûr, mais fort. Combien d'emplois sacrifiés sur l'autel de la rentabilité? Résistons ensemble et solidarité. Solidarité entre tous. Merci, au revoir.
Oui, bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Voilà, c'est toujours Jean-Philippe là, de Guyane. Je vous appelle parce que ça fait 4 jours qu'il y a une grève générale. Bon, tout le département est en grève, c'est-à-dire qu'il y a 250 000 personnes qui sont en grève. Toute activité est bloquée, le port bloqué. Les avions, il n'y a que les avions qui partent. Ouais. Quand on se déplace d'ailleurs, il y en a qui prennent l'hélicoptère, mais fait bon, autre moyen, autre mœurs, n'est-ce pas? Et donc, tout est bloqué. Hier, les commerces étaient fermés et puis les bateaux commencent à repartir. Quoi. Donc notre approvisionnement qui se fait essentiellement par mer va avoir des difficultés. Et personne ne bouge. Donc en métropole, j'ai téléphoné à un copain tout à l'heure et un Guyanais, et il me dit que pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, j'espère. Bon allez, salut fraternité, gardons le sourire hein, et la foi.
Daniel, bonjour, c'est Richard de Velot. Je voudrais savoir où je pourrais voir dans ton film Chomsky et compagnie. Avec s'il ne passe pas, donc d'un Bouche-du-Rhône, je ne sais pas où. Est-ce que tu peux donc me dire où se passe ton film? Ciao, à bientôt, merci, au revoir.
Alors, Chomsky et compagnie, il est un peu partout. Il est un peu partout, mais pour savoir si il passe près de chez vous, il faut aller sur le site Chomsky, le site du film Chomsky et compagnie. Voilà, et là vous avez toutes les salles qui présentent ce film, et vous pouvez passer par là-bas.org, là-bas.org, là vous avez toutes les précisions. Je peux vous dire que ce soir, le film sera présenté à 20h au cinéma Diagonale Capitole à Montpellier, et je serai là pour le débat. Samedi à 10h du matin, toujours à Montpellier, à l'Utopia Campus. Là aussi, j'animerai le débat après le film. Le soir 29 novembre, samedi à 18h et à 21h, deux séances au sémaphore animé. Je serai là aussi après le film pour répondre aux questions. Et puis, dimanche, à l'Utopia, à la manutention, à Avignon, il y aura une séance à 10h du matin, et je serai aussi avec vous pour discuter du film et de tout ce dont vous voudrez parler. Mais il y a d'autres séances en même temps. Il y en a une au cinéma René Fallet à Dompierre sur Bèbre, dans le 03, avec Olivier Azam. Il y a d'autres séances samedi à 18h45 au cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand, avec Olivier Azam. Vous voyez qu'on ne chôme pas. Et donc, allez sur le site pour tout savoir sur Chomsky et compagnie. Et puis, lundi, vous savez que c'est la suite de l'audience du scandaleux procès contre l'homme politique le plus populaire de France, c'est-à-dire Bernard Kouchner. C'est au théâtre de Jazet. Les fans de François Ruffin pourront venir le voir, mais il sera pas seul, il sera entouré de toute une bande d'aigris, de ratés, de fielleux, journalistes, avocats, etc., pour faire le procès, je le rappelle, en réhabilitation de notre grand homme. C'est au théâtre de Jazet, 41 boulevard du Temple, Paris, 3e arrondissement, métro République, et réservez tout de suite vos places en appelant le 01 48 87 52 55. 01 48 87 52 55. C'est lundi à 20h. Alors aujourd'hui, un truc un peu singulier, en se baladant en France, notre Antoine Chao a rencontré un drôle de type, un énergumène assez passionnant, qui s'appelle Alain Guyard. Qui c'est ce Alain Guyard ? Eh bien, c'est un philosophe. Bon, mais c'est un philosophe qui veut faire sortir la philosophie du cadre où il considère qu'on l'a trop enfermé, c'est-à-dire l'académie, c'est-à-dire la distinction, c'est-à-dire ce truc poussiéreux, pompeux, et barbant, etc. Alors, avec une association qu'il a constituée avec des copains, des amis, tout aussi philosophes, eh bien, ils se produisent dans des tas de lieux, des cabarets, des bistrots, des prisons, partout où on veut bien d'eux, mais hors des lieux de la philosophie. Tant ils pensent que Diogène avait bien raison. Diogène, à qui l'on disait que Platon était philosophe, c'est ce qu'a fait le Diogène dans son tonneau, et il disait: comment peut-il être philosophe s'il ne dérange personne? Évidemment, vous avez compris que Alain Guyard, que nous avons baptisé le philosophe forain, entend déranger le monde. Là, on l'a fait venir et il nous a fait une démonstration entre trois philosophes, trois penseurs ou trois pensées, comme vous voulez, celle de Hobbes, celle d'Adam Smith et celle de Marcel Mauss. Marcel Mauss. Et vous allez voir comme c'est passionnant de faire sortir les idées du cadre compassé où elles sont tellement enfermées qu'elles ne dérangent plus. Elles peuvent la déranger, tant il est vrai que les idées, c'est l'essentiel. Depuis un petit quart de siècle, on lui fait croire qu'il n'y en a plus. Vous savez, on dit « Oh, ça c'est de l'idéologie, c'est pas bien. Voilà. Réfléchir, c'est pas bien. » Tant il est évident que l'ordre des choses qui s'est imposé, eh bien, ne se discute pas, est naturel, et nous n'aurions plus à réfléchir. Nous ne serions plus les enfants de Descartes, des Lumières, ou de Bourdieu, tout ça, ce serait de Sartre et de Nison, etc. Tout ça, ce serait dépassé. Qui a inventé ce discours lénifiant? Eh bien, c'est ceux qui accompagnent et qui sont, eux, avec des idées, qui sont ces idées du néolibéralisme, rythme qui s'est imposé et qu'ils ont imposé. Alors il est urgent et important de faire entendre d'autres sons de cloche, et pour ça il faut faire sortir les cloches du clocher. C'est ce que nous allons faire jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Avise à la population poitevine. Le repère de Poitiers change de jour. Il se déroulera désormais le premier lundi de chaque mois. Cela tombe donc lundi prochain, lundi premier. Ça se passe toujours à 20h, toujours au Saint-Paul-de-Vence. Alors lundi prochain, il n'y a pas de thème particulier. Les sujets ne manqueront pas pour discuter. Simplement, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez emmener un livre, que ce soit n'importe lequel, pour le partager, pour en discuter avec les autres. Voilà, venez nombreux, lundi prochain à 20h au Saint-Paul-de-Vence.
Bonjour monsieur, dame. Je vous téléphone parce que sincèrement, quand même, moi je suis de la France d'en bas, même bien bas. Eh bien, figurez, après avoir travaillé pourtant bien longtemps et avoir des retraites de misère. Mais, comment dirais-je, je suis fatiguée d'entendre toujours ces journalistes la critiquer encore et encore, sans arrêt, les socialistes. Parce que, naturellement, il ne faut pas qu'ils existent. Il faut que ce soit le Figaro. Quand on entend le soir sur RTL qu'on refait le monde, eh ben, faut entendre une agressivité, les journalistes du Figaro. C'est effrayant. Ceux qui veulent un petit peu défendre les pauvres de la France d'en bas, tout de suite, on leur coupe la parole. Mais c'est effrayant quand même, cette chose-là. Mais qu'est-ce qu'on a donc fait? On est des pestiférés, mais qu'est-ce qu'on a donc fait à ces gens-là? Regardez les gens maintenant qui meurent et qui meurent dans la rue, qui ont tout. Et tous ces journalistes-là, vous savez, ils sont gavés, ils ont tout ce qu'il faut. C'est tout ça, c'est un monde égoïste. Eh bien, moi, c'est pas mon monde, ça, du tout. Et ça me fait bien mal au cœur, parce que figurez-vous quand même, tous ces personnes-là, ils souffrent. Hein. Et personne dira un mot de bien de la France d'en bas. On est méprisé au possible. Merci, monsieur, dame. Au revoir.
Bonjour Daniel, aujourd'hui à 15h, le comité de soutien va remettre au sous-préfet de Dax dans les Landes un premier recueil des signatures contre la fermeture de Sony Pontonx et pour la sauvegarde de tous les emplois. Le comité de soutien et les salariés appellent la population, les élus et les signataires à se joindre à cette initiative. Merci, au revoir.
Vous êtes triste de n'avoir pu regarder à l'époque Vive la crise ? Eh bien, vous allez pouvoir vous rattraper. En effet, je crois qu'on nous refera le coup dimanche à 16h30 sur France 5. Au programme fiction intitulée « Tenez-vous bien, 2017, la France en faillite », présenté par Claire Fourmier et « Tenez-vous mieux, Nicolas Bétou », et avec en plateau « Tenez-vous bien droit », Laurence Parisot, Eric Woerth, Michel Rocard. J'en salive déjà. Coco Sylvestre n'a-t-il pas raté une occasion de se montrer ?
Oui, bonjour les amis, c'est le repère de Mornant. Donc c'est pour vous annoncer le prochain repère le lundi 1er décembre à 20h au Petit Bistrot à Mornant. Donc face à la crise, on va discuter des solutions, des alternatives, ce qu'on peut mettre en place. Et on aura Terre de Liens qui sera l'invité pour discuter de l'accès au collectif aux fonciers. À bientôt, au revoir.
Et donc faisons œuvre sociale, faisons œuvre de sociologie scientifique, vivre le vin coopératif. Alors, la question, pourquoi il faut avoir les bourses en actions plutôt que les actions en bourse? Voilà, donc c'est à l'exposé que je vais essayer de vous présenter ce soir, sachant que bien sûr je ne parle pas de mon emprunt. propre, mais le jeu, ça va consister pour moi à essayer de vous présenter, de vous mettre en avant des philosophes qui ont réfléchi avant nous et qui, ma foi, ont peut-être produit des concepts, comme dit Deleuze, fabriqué comme ça des idées, ma foi, ils ont fabriqué des idées, ils ont usiné de la pensée, de la matière pensée, comme ça. Et puis, bah, c'est dommage que ça dorme dans les bibliothèques, c'est dommage que ce soit réservé comme ça à des érudits. Et bah, l'idée, c'est un petit peu comme ça, de mettre à disposition ces boîtes à outils auprès des gens comme nous, quoi. Voilà.
C'est là-bas, si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao. Pourquoi il vaut mieux avoir les bourses en actions plutôt que les actions en bourse, avec Alain Guyard, philosophe forain. Flight number 2, arriving from New York. Alors voilà, il s'appelle Diogène Consultant. Et ils ont l'ambition, à travers cette association, de faire appel aux compétences de professeurs de philosophie pourvu qu'ils soient prêts à philosopher en dehors des lieux qui sont consacrés traditionnellement ou institutionnellement à l'enseignement de la philosophie. Salle des fêtes des villages, très très loin de la visibilité médiatique, suivez mon regard. Prison, maison du peuple, dans des bourgs reculés, bibliothèques de quartier, réserves naturelles, centres sociaux. Mais ce ne sont pas que les lieux qui doivent être investis autrement, c'est aussi la manière de faire de la philosophie qui doit être réinventée. Car il n'est pas question d'utiliser la philosophie comme un outil de discrimination sociale ou de la vulgariser en faisant un débat bavardage. L'association Diogène, consultant, veut la démocratiser et la rendre populaire au double sens du mot. Cela implique un style, une présence et une manière d'enseigner qui doit, là encore, rompre avec les habitudes et les conventions. Voilà, une opération d'éducation populaire, tout simplement. Et on essaye de sortir du cadre, de sortir du rang et de permettre à certains de découvrir certaines façons de penser. C'est là un beau travail d'intellectuel, tout simplement, qui renvoie à un magnifique livre que je vous conseille, mais alors je ne peux pas vous conseiller une lecture plus pressante que celle du livre de Paul Nizan intitulé Les chiens de garde, avec une préface de Serge Halimi qui dit: l'intellectuel n'est pas le sténographe de l'ordre, mais celui qui sait expliquer la nécessité de le dépasser, voire de le subvertir. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Pile.
Tous les soirs, ma bourse démaille, les mérénouillés, si je suis mourrié, aïmès manjaboué, ouais, c'est un faille, je vous finis, il a smaoulié. Lou feignant de, chi lou gourmand de, chien des toutes des avias, les jouvets, maille les lidis ou patin bédeur, mais rescouta des millèves à la paix. Passe que lou, marté ou procu, les decks et chicara, des gaflan, que c'est pas feignant, que c'est pas gourmand, qu'un tron des dieux louculé, que c'est pas feignant, que c'est pas gourmand, qu'un tron des dieux louculé. Ah, le godé, naï, c'est canaille, les fans du paoulou brillé ma soupe, et arqué si ou pas, son tidi braille, tu négocies un mode un balou, you t'en couvas, ça qu'est vida, ça qu'est tchala, ça vieux wag des plombs, voit des milliers particuliers, dis l'eau lié ou fa, tu gal ou reste lié. Ma, il faut que qui est si mesure, les sommes mariés, va capella, que c'est pas feignant, que c'est pas gourmand, qu'un tron des dix louculés, que c'est pas feignant, que c'est pas gourmand, qu'un tron des dix louculés. L'esti ou des sus ou si anéga, anam pa ou manéja la tible, les mangors mi ou saviala, maïen gouguette, à la guinguette, rire canta que zédia fatuba, pe la bouchette, pe li cartette, pe yemet choison lié siradassa. La tive en brégan ke mi tue, les cacos pa louple si déissan, que s'pa feignan, que s'pa gourmand, que tron des dieux louculé, que s'pa feignan, que s'pa gourmand, que tron des dieux louculé, que s'pa feignan, que s'pa gourmand, que tron des dieux louculé.
Ah, Alors, pourquoi il vaut mieux avoir les bourses en actions plutôt que les actions en bourse? Voilà, on va essayer de répondre à cette question. C'est pas simple du tout, les bourses en actions et les actions en bourse qui s'opposent. Mais pour essayer de nous éclairer, on a fait appel à Alain Guyard. Alors Alain Guyard, c'est quelqu'un que Antoine Chao a rencontré. Moi, j'ai l'impression qu'Alain Guyard est un philosophe forain. Antoine Chao, est-ce que vous pouvez nous expliquer, cher Antoine, comment, dans quelles conditions vous avez rencontré cet Olibrius?
Alors c'est pendant une errance dans la petite Camargue, mais bien au-delà de Vauvert. Je me suis retrouvé au Quélard et c'est dans la maison du peuple que j'ai rencontré Diogène consultant. Donc je me suis dit bon, ça doit être comme ça. Du coup un cours de consulting pour perfectionner le libéralisme, mais non, pas du tout.
C'était l'inverse.
C'était un éloge du coopératisme, voilà, auquel j'ai assisté. Alors je voulais en faire partager le plus grand nombre, parce que dans la maison du peuple de Quélard, il n'y a que 150 ou 200 places.
Alors Alain Guyard, avant de répondre à la question que nous venons de poser, qui est une question que vous vous posez, comment êtes-vous devenu le philosophe forain que vous êtes ?
D'abord, 20 ans de métier, je suis très modestement prof de philo, j'ai pas la prétention d'être philosophe, il y en a qui pensent beaucoup mieux que moi, et ma seule prétention, c'est essayer de mettre à disposition de tous la pensée de ceux qui ont pu travailler avant nous, et puis qui mettent à disposition des outils de pensée dont on a peut-être besoin aujourd'hui, parce que c'est pas qu'une crise de l'économie, c'est aussi une crise de la pensée à laquelle on est confronté. Et tous ces philosophes qui nous ont précédés, ils ont bien pensé avant nous, et moi, très modestement, j'essaie de faire passer. Hein, je fais un boulot un peu de contrebandier, quoi. Hein, j'essaie de faire passer comme ça ce qui a pu être pensé avant nous. Je le fais en lycée, et puis je le fais aussi dans des lieux où on n'attend pas du tout la philosophie, là où c'est peut-être plus vital encore. Donc je le fais, par exemple, dans les prisons, dans les maisons du peuple, dans les foyers ruraux, dans les petits bistrots, partout où la parole peut faire du sens, partout où il y a des hommes qui se questionnent, et ben la philosophie elle est bienvenue. Voilà. Alors j'en fais depuis maintenant 4 ans, je tourne un petit peu comme ça, de foire en foire, je fais le philosophe forain en effet.
Donc, pourquoi il vaut mieux avoir les bourses en action plutôt que les actions en bourse, point d'interrogation, ou dépassement de l'échange marchand-smithien par l'anthropologie maussienne? Alors là, je vois deux mots. Je vois le mot Smith et je me dis, c'est un certain Adam Smith, et je vois Maussien et je me dis Marcel Mauss, le sociologue.
C'est impeccable, c'est un très bon début et je pense que là on est parti pour des choses très prometteuses.
Alors allez-y, Alain Guyard. Dites-nous en quoi il est préférable, encore une fois je le répète, d'avoir les bourses en action plutôt que les actions en bourse.
L'idée, puisque tout le monde s'inquiète aujourd'hui de la crise du capitalisme, de la crise du libéralisme, puisque tout le monde confond tout ce vocabulaire, c'est d'essayer de revenir aux auteurs qui sont fondateurs de cette pensée. Et ces deux auteurs, il y a Smith, et puis il y en a un autre sur lequel ça vaut la peine de revenir, c'est Hobbes. C'est deux philosophes anglais qui vont nous permettre de comprendre un petit peu, j'ai envie de dire, les paradigmes, les fondements qui vont ensuite justifier le capitalisme, l'esprit du capitalisme, et puis finalement ensuite l'investissement en bourse. Parce que l'investissement en bourse, c'est pas qu'une affaire économique, c'est d'abord derrière une affaire philosophique. Quelques mots peut-être sur Hobbes, d'après,
absolument,
pour présenter le bonhomme.
Tout à fait.
Parce qu'il est assez intéressant, le zigoto, hein. Donc Hobbes, il est philosophe anglais. On peut dire que c'est un philosophe bourgeois, hein, au sens vraiment sociotype du terme. Il vit dans une Europe qui est une Europe dévastée par les guerres de religion, par les guerres civiles. Et ça lui fait gros souci à Hobbes. Alors ça lui fait souci, bien sûr, parce qu'elle s'en coule et ça fait de la peine. Mais ça lui fait aussi souci parce que notre homme, ma foi, il voit que lorsque la situation est aussi portée au sang et à la violence, on a bien du mal à faire des affaires. Et l'idée de Hobbes, au fond, c'est la suivante. Hobbes, il suppose que les hommes sont naturellement méchants. Les hommes sont tous portés par des désirs, hein, mais là où il y a désir, il y a violence. C'est-à-dire que, par exemple, les motifs des actions des hommes, pour Hobbes, sont de trois ordres. Soit c'est la fierté, je m'aime absolument au détriment des autres. Soit, lorsque je m'adresse aux autres, c'est la méfiance, mais j'arrive pas à les penser comme des gens qui pourraient être des partenaires. Et par conséquent, lorsque j'établis des relations avec les autres, ben elles sont fondées sur la rivalité. Donc l'idée de Hobbes, c'est la suivante. C'est qu'au fond, on peut pas faire confiance aux hommes. On peut pas les laisser à eux-mêmes. Et au fond, l'homme, il est naturellement violent. Il va reprendre cette vieille expression romaine, hein, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est la perspective de Hobbes. Et pourquoi c'est très emmerdant? Parce que si on laisse les hommes comme ça, à l'état naturel, si on laisse les hommes dans un état social sans contrôle, eh ben, ils vont s'entre-déchirer, ils vont se dévorer, ils vont, et c'est là où ça lui fait très peur, ils vont se piller les fruits de leur travail. C'est-à-dire que personne ne pourra s'enrichir, personne ne pourra travailler plus, pour gagner plus, pour ramasser plus et pour investir plus. Alors notre pauvre Hobbes, qui est comme ça, un peu paranoïaque, désespéré, devant un tel contexte social, il a une solution. Puisque les hommes livrés à eux-mêmes dans la société ne font rien d'autre que se faire du mal les uns les autres, eh bien il faut faire intervenir l'État. Mais la fonction de l'État pour Hobbes, c'est quoi? C'est simplement limiter le plus possible la liberté des hommes. Pourquoi? Parce que plus tu limites la liberté des hommes, moins tu laisses pour eux la possibilité d'affirmer leurs désirs, moins ils vont se livrer aux actes de violence, et par conséquent, plus ils pourront bénéficier des fruits de leur travail, plus ils pourront accumuler de la richesse, et pourquoi pas la jouer en bourse. Alors l'idée, elle est vachement intéressante, moi je trouve. Et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Hobbes, il est en train de nous dire que l'une des conditions qui permet un capitalisme florissant, c'est un État fort, un État policier et un État qui va juguler les libertés individuelles. Parce que plus tu vas limiter les libertés individuelles, plus tu vas réprimer les initiatives dans l'ordre du désir, plus tu vas éviter cette violence et plus tu vas permettre l'accroissement de richesses. Ça veut dire quoi ça, mine de rien ? On n'arrête pas de nous seriner jour et nuit en nous disant « Oui, le capitalisme, l'économie de marché, ça va de pair avec la démocratie. » C'est là-dessus que BHL, par exemple, a fait son fonds de commerce et qu'il a réussi à devenir tête de gondole. Hein, en disant, en effet, là où avance la démocratie, là avance l'économie de marché, réciproquement. Hein, t'as démocratie, économie de marché, Bouvard, Pécuchet, Jacob, Delafond. Eh ben en fait, c'est peut-être pas si sûr. Parce qu'on peut parfaitement rendre compatible l'idée sur laquelle l'accumulation de richesses individuelles, elle doit aller de pair avec un État toujours plus sécuritaire et toujours plus policier qui surveille une société qu'on va toujours considérer comme coupable de perversité. Pour le dire autrement, quand on n'arrête pas de nous seriner en disant « Oui, l'avenir, c'est une Chine démocratique qui va s'ouvrir avec le marché aux droits de l'homme », eh ben dans le cul la balayette. Parce qu'en vérité, la Chine peut être tout à fait économie de marché, et d'une, et continuer, malgré tout, sa politique répressive. Et de la même manière, il n'y a pas à s'étonner qu'un type comme Sarko tient de la main gauche l'économie de marché et de la main droite les tasers et les bâtons des flics. Tout ça est parfaitement compatible. Donc moi, je voulais commencer, si tu veux, mon intervention en disant ça. Attention, parce que derrière l'idéologie de la bourse, ce qui se profile, si vous voulez, c'est pas simplement l'idée de la démocratie, la liberté individuelle, du sourire aux lèvres et des cheveux qui jouent dans le vent, hein. Mais ce qui peut se jouer derrière, c'est effectivement un renforcement policier en raison d'une suspicion à l'égard de la société et d'un manque de confiance à l'égard du désir que les hommes peuvent porter les uns pour les autres.
Voilà pour Hobbes.
Et on se souvient en effet que du côté de Hobbes, il y a un postulat. Les hommes se voient les uns les autres comme des proies ou comme des prédateurs. Car, nous disait Hobbes, il reprenait l'expression du philosophe latin Plaute, ça n'est pas un surnom, et le philosophe romain Plaute disait donc l'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus, et donc Hobbes le reprenait pour lui, homo homini lupus c'est du latin, c'est pas une maladie de peau spécifique aux homosexuels, hein. Vous auriez pu croire ça avec Plaute. Non mais rien à voir.
Adam Smith,
et oui,
la main invisible.
Notre thématique ici, elle joue en binaire, hein, les bourses, les pairs de la philosophie du marché.
Et tout ça en action.
Alors le deuxième homme, en effet, duquel je voudrais vous parler, c'est Adam Smith. Lui aussi, il part d'une espèce de postulat sur la nature humaine. Et comme par hasard, figurez-vous, c'est le même postulat que Hobbes.
C'est l'histoire du brasseur.
Alors voilà, en effet, il y a cette phrase très célèbre
de Smith dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et il nous dit, Smith, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Donc la perspective smithienne, c'est la même chose. Au fond, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Smith ? Attention, attention, méfiez-vous de l'homme ! Parce que là où il y a homme, il y a un naturel vicié. Il y a un homme qui est naturellement porté à son égoïsme. Il y a un homme qui est naturellement porté à défendre d'abord ses intérêts et systématiquement au détriment des autres. Donc on est dans une perspective qui est tout à fait analogue à celle de Hobbes. Seulement, il y a une différence. Si la base d'interprétation est la même, Smith, il va aller dans l'autre sens. Et Smith, il va nous dire, un truc assez étonnant, il va nous dire, eh ben, on va laisser faire. On va laisser faire cette violence à laquelle les hommes s'exercent lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Parce que l'idée assez délirante, hein, je crois que ça touche à la pathologie, il faut le dire clairement, hein, l'idée assez délirante de Smith, c'est la suivante, c'est qu'en définitive, ce vice individuel, à l'échelle collective, c'est rien que du bon. C'est du bonnard. Alors, va savoir pourquoi, là, tu te dis, je sais pas, il y a dû avoir une espèce de moment épileptique dans la rédaction de ta recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Une espèce d'absence, les yeux qui blanchissent, la mousse qui vient aux lèvres. Mais enfin, il invoque, hein, l'expression, elle est assez célèbre, il invoque la chose suivante, il dit, notre homme, quand il ne pense qu'à son propre gain, en cela, comme beaucoup d'autres, il est conduit, nous dit-il, par une main invisible, à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et alors là, il y a quelque chose qui touche du miracle, de la grâce divine. Le doigt de Dieu se pose sur les hommes. Et ce doigt de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rééquilibrer, de telle sorte que si les vices sont livrés à eux-mêmes, lorsque les hommes sont laissés à leurs impulsions, à leurs désirs les plus viciés, la main invisible du marché va permettre de rétablir tout cela et de faire que de cette accumulation de négatifs, on va pouvoir ensuite produire du positif.
Oui, on pourrait croire que vous êtes en train de faire des acrobaties verbales et des spéculations oiseuses, sauf que Adam Smith sert de référence permanente à toute une série de penseurs, d'hommes politiques, depuis pas mal d'années, mais disons le dernier quart de siècle est placé sous l'empire ou sous la pensée d'Adam Smith. Il sert de référence très sérieusement à ceux qui conduisent le monde depuis un quart de siècle.
C'est pas un hasard. D'ailleurs, son bouquin, quand il l'écrit en 1776. Donc on voit bien ici qu'on est dans une fenêtre astronomique qui est idéale. Hein. C'est l'indépendance américaine. C'est un auteur, bien sûr, anglais. Il écrit en un temps où la révolution industrielle est florissante. Il va être le fer de lance idéologique, effectivement, de tout le courant qu'on peut qualifier à raison de libéral. À l'opposé de Hobbes, qui est plutôt, disons, dans une conception absolutiste de l'État ou sécuritaire de l'État, qui est aujourd'hui plutôt un petit peu étouffé. Mais enfin, effectivement, ce qu'il faut souligner, c'est que notre homme va être l'inspirateur des théories économiques depuis 50 ans, mais il faut bien comprendre que lui, comme Hobbes, sa pensée n'est pas une pensée économique. C'est d'abord une métaphysique, et c'est d'abord un postulat, c'est d'abord un pari sur une nature humaine dont on dit qu'elle est viciée, et c'est un regard porté sur le désir des hommes dont on le dira qu'il est lui aussi nécessairement marqué au fer rouge du mal et de la violence. Lorsqu'il s'est penché sur la question de la richesse des nations, il a réduit, au fond, la question de la richesse des nations à une seule dimension, qui est la dimension économique, qui est la dimension monétaire. Donc, au fond, je pense que c'est un faire-valoir d'une société ou d'un monde qui, comme le nôtre, est un monde en plein appauvrissement, en pleine déshérence, et qui, à défaut de mettre l'accent sur ses faiblesses, va mettre l'accent sur, finalement, la seule qualité qui lui reste. Et la seule qualité qui reste à ce monde, c'est être seulement capable de spéculer et d'accroître un bénéfice qui est de l'ordre de la finance ou de l'économie. Mais au prix de quoi ? D'un terrible appauvrissement dans d'autres échanges qui sont peut-être tout aussi fondamentaux, mais qui n'ont pas à voir avec l'économisme et qui ont peut-être à voir avec le social, avec l'affectif, avec le symbolique. Et c'est peut-être ça aussi, de ce dont il faut parler.
Si vous voulez, Adam
Adam Smith, c'est, faut quand même le dire franchement, c'est une espèce de cosmologie délirante d'épicier. Le gars, il est dans l'idée selon laquelle, nécessairement, dans le monde, à la fin du mois, c'est zéro. Ça va, j'ai payé tout le monde, ça tombe juste.
Voilà, Alain Guyard, philosophe, qui a décidé de faire sortir la philosophie, l'enseignement de la philosophie, de son cadre et de son discours habituel, et aussi de son langage, et de s'adresser à des publics variés, à des gens tout simples, comme vous et moi, dans des lieux tout simples, un bistrot, vous avez bien une salle de prison, bien sûr, c'est différent, mais il s'adresse aussi à des publics inattendus et auxquels, en principe, on ne sait pas très bien quel principe, la philosophie, le philosophe ne s'adresse pas. Et bien c'est ce principe auquel il tord le cou en nous passionnant pour donc, alors là on a bien compris où il nous a éclairé sur la pensée de Hobbes, celle d'Adam Smith, et maintenant il va opposer à ces deux penseurs qui sont effectivement, à la base ça on ne le sait pas toujours, qui sont la grande référence de nos entre guillemets penseurs d'aujourd'hui, il va leur opposer un autre, il aurait pu en choisir d'autres, mais enfin, là, ça va être, il va opposer ces deux-là à Marcel Mauss. Alain Guyard. Alors, vous opposez à ces deux références, ces deux penseurs différents, vous opposez quelqu'un comme Marcel Mauss. Pourquoi ?
Parce que le petit père Mauss, je veux dire, il est anthropologue. Donc, lui aussi, la question des échanges que les hommes établissent les uns avec les autres, ça lui fait souci. Il essaie de se libérer des postulats métaphysiques.
C'est quand ça se passe, quand
ça, ça va se jouer dans les années 1900, et notamment, il va écrire un célèbre bouquin qui s'appelle « Essai sur le don », qu'on pourrait d'ailleurs appeler plutôt « Essai sur le don et sur le contre-don », et ça, il l'écrit dans les années 24-25. Et qu'est-ce qu'il fait le petit père Mauss ? Ben, il dit « Bon, d'accord, les tenants d'un échange qui peut se réduire simplement à l'échange marchand, à l'économique, ont une voix qui retentit depuis quelques décennies, voire depuis quelques siècles, mais est-ce qu'ils ont le monopole de l'intelligence de l'échange ?» Et Mauss, ma foi, il essaie de voir sur grande échelle. Donc il va travailler avec un matériau où il va solliciter l'Océanie, il va solliciter le Canada, les tribus du Nord-Ouest canadien, les Chinooks. Il va faire au fond une enquête de terrain et il va essayer d'élargir le regard porté sur les échanges. Puis il va pas se contenter de ça, il va aussi repenser nos échanges au quotidien, à nous autres, hein, qui n'avons pas des plumes, mais qui pour autant pratiquons aussi des échanges. Et la découverte que fait Mauss, et c'est là où elle est intéressante, c'est qu'en définitive, la conception d'un échange qui se réduit simplement à des tractations égoïstes entre des individus qui vivent une vie sociale infiniment pauvre et uniquement réductible à des pratiques de prédation réciproque sur le terrain économique, eh bien cette conception-là, non seulement elle est très maigre, mais certainement elle est très fausse. Et le travail de Mauss, ça va être justement d'aller à contre-courant de ça.
Alors c'est quoi le don et le contre-don ?
Bon, si vous voulez... Mauss, il va faire un tour du côté des Indiens, par exemple, chez les Chinooks. Et il voit que, ma foi, les Chinooks, c'est 6 mois de chasse, de pêche, de nature. Je dis pas de tradition, parce que c'est quand même une autre connotation. Mais enfin, les gars, comme ça, font des pots, des pirogues, ramassent des galets, s'occupent, tout ça. Et puis vient la saison froide. Et quand c'est la saison froide, il n'y a rien à faire. Ben si, les Chinooks, qu'est-ce qu'ils font pendant 6 mois dans l'année ? Ils font des fêtes. Ils se reçoivent les uns les autres. Et ils font des foires, ils organisent des réceptions somptueuses, au sein desquelles, finalement, l'argent, le troc, a pas grand place. Et ce que découvre Mauss, c'est que les pratiques du donnant-donnant, les pratiques qui sont les pratiques de l'échange marchand, où je te prends cela et en échange je te donne quelques pièces, ben, ces pratiques-là, elles sont très minoritaires. Et à la place, qu'est-ce qu'il découvre, Mauss ? Il découvre une structure qu'on pourrait dire un peu triangulaire. Donner, recevoir, rendre. Et cet échange-là, qui est triangulaire, il est très différent et il est beaucoup plus riche que le donnant-donnant. Alors ça veut dire quoi ? Ça, par exemple, je vais rendre visite à quelqu'un. Quand je vais passer le seuil de la porte, je vais pas arriver les mains vides. Ça se fait pas. Je vais venir avec un bouquet de fleurs, je vais venir avec une petite bouteille, comme ça, très aimablement. Je vais la lui présenter. Mais alors, le fait de donner, ça nécessite quand même une certaine intelligence sociale, une certaine sensibilité. Parce que je vais pas l'écraser avec un cadeau qui va montrer que moi je dégueule de pognon et que je l'écrase comme ça de mon mépris. Et réciproquement non plus, je vais pas venir avec un cadeau de misère, manière de dire, bon ben voilà, je fais l'effort, mais tu vas bien, je me casse pas pour toi. Donc il y a une question de dosage, assez fin comme ça, qui nécessite de mobiliser quelque chose qui est de l'ordre du tact, de la sensibilité à l'égard de l'autre. Et puis finalement, venir avec le cadeau, c'est aussi une manière de désamorcer un conflit potentiel. Parce que l'autre, après tout, comment il va me recevoir? Quelle relation on va établir? Rien n'est gagné encore. Mais c'est pas que ça! C'est que l'autre qui a reçu le cadeau, il faut qu'il soit en situation de le recevoir. Alors là encore, il va y avoir tout un cérémonial. Oh oui, c'est très gentil, fallait pas, je suis très gêné. Oh mais vous êtes fou, venir avec une bouteille, quelle intention touchante, je m'attendais pas à ça de votre part. Bon, il y a une manière de savoir répondre. On va pas prendre simplement le cadeau et puis dire que ça, ou c'est tout, ou merci, ou je l'attendais. Et une fois que le cadeau est reçu, je me sens dans l'obligation de rendre l'appareil. Mais lorsque je me sens dans l'obligation de rendre l'appareil, je dispose d'une certaine liberté. C'est pas comme dans le commerce où le prix est affiché, j'ai pas le choix. Et la liberté que je vais ici utiliser, c'est quel cadeau je vais faire en retour. Je vais l'inviter à mon tour, alors je vais faire peut-être un repas, ou à mon tour je vais varier les plaisirs, ou je vais trouver quoi? Au fond, trouver du qualitatif, trouver du relationnel, trouver du symbolique, trouver... de l'affect.
Donc, si je comprends, vous opposez le don, le contre-don, la coutume telle qu'elle se pratique, par exemple, en Nouvelle-Calédonie,
tout
dans beaucoup
fait.
D'endroits, qui est à la base du mot portugais obligado. Mm-hmm. Je suis votre obligé, hein, c'est-à-dire s'obliger les uns les autres, mais avec un intérêt qui n'est pas l'intérêt strictement marchand et financier.
Oui. Et puis l'autre chose qui est très intéressante, c'est que dans cette affaire, obligado, je me sens votre obligé. Donc ça veut dire que peu à peu, ce qui se tisse entre vous et moi, c'est des obligations de réciprocité. Ça veut dire qu'on construit quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui est durable, et puis qui s'inscrit dans le rapport social. Alors que si j'ai simplement un rapport qui est marchand avec autrui, c'est « vas-y, je te paye, adieu, je te connais plus, on est quitte, tu peux crever, on a eu un contact de 6 secondes, après je te connais pas ». Donc c'est là aussi il y a quelque chose de très intéressant. Parce qu'il se tisse quelque chose qui est sur la longueur de temps, et il se construit quelque chose qui est l'expérience sociale du partage, de l'entraide. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort.
Je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait qu'on est au 21e siècle et qu'on entre dans le 3e millénaire et blablabla?
On s'en fout!
Et de la montée du Dow Jones et de la baisse du CAC 40?
On s'en fout!
De tous les cocoricots,
on s'en fiche, on s'en fout.
Du congolois sur ses ergots,
on s'en fiche, on s'en fout.
Du prétendu bon goût français,
on s'en fiche, on s'en fout.
De la mode de l'été,
on s'en fiche, on s'en fout.
Des sondages d'opinion,
on s'en fiche, on s'en fout.
Des pseudo-révolutions,
on s'en fiche, on s'en fout.
Des faux débats qui font les beaux,
on s'en fiche, on s'en fout.
Des marchands de grands idéaux,
on s'en fiche, on s'en fout.
Du poétiquement correct,
on s'en fiche, on s'en fout.
Du musicalement sélect,
on s'en fiche, on s'en fout.
De tout ce qui est formaté,
on s'en fiche, on s'en fout.
De tout ce qu'il faut penser,
on s'en fiche, on s'en fout.
Mets les repas sur la place,
ah oui, ça c'est nous, c'est lui.
Avec tous les gens qui passent,
ah oui, ça. Ça aussi.
Rendre service aux voisins,
ah oui, ça c'est oui.
Prendre nos affaires à main,
ah oui, ça aussi.
Mettre les peuples en ronde,
ah oui, ça c'est oui.
Au forum des langues du monde,
ah oui, ça aussi.
Inventer son emploi,
ah oui, ça c'est oui.
Travailler dans la joie,
ah oui, ça aussi.
Les contre-pouvoirs civiques,
ah oui, ça c'est oui.
Discussion socratique,
ah oui, ça aussi.
Ça c'est oui,
ça aussi.
Ça c'est oui,
ça aussi.
Ça c'est oui,
ça aussi.
Ça c'est oui,
ça aussi.
Ça c'est oui,
ça aussi.
Ça c'est oui,
ça aussi.
Ça c'est oui,
ça aussi.
C'est fini,
ça aussi.
Alors, ramener à notre situation, c'est-à-dire les actions en bourse actuellement, dont on connaît les tourments qu'elles engendrent, ces actions dans le fait qu'elles montent et qu'elles descendent, c'est pas dans le fait qu'elles montent et qu'elles descendent que nous sommes inquiets, c'est ce qui fait qu'elles montent et qu'elles descendent qui a de quoi nous inquiéter. En quoi est-ce que vous ramenez les figures que vous venez d'évoquer, celles d'Adam Smith, auquel le mot libéral est attaché, celle de Hobbes, que vous opposez les deux aux découvertes, enfin au travail de Marcel Mauss. Vous auriez pu aussi évoquer Lévi-Strauss, vous l'évoquez
tout
dans votre travail. En quoi est-ce qu'on peut rapporter tout ça à notre époque tourmentée par ces actions en bourse?
Qu'on soit du côté de Hobbes ou qu'on soit du côté de Smith, on est face à des gugus qui sont complètement les héritiers d'une conception qui est une conception malgré tout religieuse, je crois, métaphysique, et chrétienne de l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il est porteur d'une nature pécheresse. L'homme, il n'est pas capable, en lui-même, de se sauver. Et lorsque l'homme éprouve du désir à l'égard de l'autre, c'est toujours une convoitise, voire même de la concupiscence. Et ce qui est rigolo, c'est que ce schéma, qui est un schéma religieux, hein, bon Dieu, ça fait 2000 ans qu'il nous pourrit la tête, ce schéma-là, eh ben, on le retrouve s'adaptant à l'économie. Parce que quand, effectivement, Hobbes nous dit « l'homme est un loup pour l'homme », ou quand Smith nous dit « là où il y a homme, il y a vice », ben, on est vraiment dans une conception de l'homme comme pêcheur, et de l'homme comme laissé à lui-même, sans le secours d'une autorité supérieure, pas capable de dépasser cet état de vice. Alors, t'as des types comme Smith qui te disent, eh ben, laissons faire, laissons ce vice, et il y a la main invisible, si c'est pas le secours divin, qui va intervenir pour réguler tout ça. Et puis t'as de l'autre côté Hobbes qui dit, ne laissons pas faire, et il va intervenir un Dieu tout-puissant, c'est les mots qu'il emploie pour parler de l'État, un Dieu tout-puissant qui s'installe dans l'histoire, et celui-ci, quel est-il? Un État qui, dit-il dans ses textes, ne doit pas hésiter à exercer la terreur sur ses citoyens afin de leur garantir la sécurité. Ce qui est délirant, c'est que ce texte, qui a été écrit au XVIIe siècle, il montre que là où il y a État, au nom de la sécurité, il ne faut pas qu'il hésite à utiliser la terreur. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, on est confronté à un faux dilemme. On nous sommes systématiquement de choisir entre une alternative qui est la suivante. C'est ou bien tu vas dans la direction du marché toujours plus libre, du marché sans entrave, et là on est vraiment dans une philosophie qui est d'une philosophie smithienne, ou bien tu vas exiger des contrôles toujours plus sévères, et tu veux exiger alors une présence d'un État qui va être un État qui va vérifier, verrouiller, encaserner, surveiller et punir. Et ce qui est intéressant, et ce qui est pressenti par Marcel Mauss, c'est qu'en fait, ce dilemme est un faux dilemme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté l'individualisme libéral du chacun pour soi, il n'y a pas de l'autre côté un État répressif qui est la seule condition par quoi le marché peut être relancé, mais il y a la possibilité, il y a une troisième voie, il y a la voie du milieu, et la perspective maussienne, c'est dire quoi? C'est dire, entre l'individu, qui est une espèce d'atome qui tombe comme ça dans le vide, qui est un grand pauvre social, et de l'autre côté un État dont on espère de lui qu'il sera toujours plus répressif et toujours plus surveillant, ben, il y a la possibilité, entre l'individu et entre l'État, il y a la possibilité de faire le pari de l'intelligence sociale. C'est-à-dire, il y a la possibilité de croire que peut exister, entre les hommes, des relations qui se fabriquent, qui sont solidaires, qui sont des relations d'entraide, qui peuvent se construire sans passer par une économie marchande qui va faire l'éloge du libéralisme individuel, sans passer non plus par un tout étatisme qui peu à peu nous conduit vers une société planétarisée et sécuritaire. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, chez Mauss.
Faire le pari, croire, c'est flou.
C'est pas si flou que ça. Parce que, par exemple, le petit père Mauss, lui, concrètement, il est allé au charbon. C'est-à-dire qu'il a fait le pari que cette solidarité, c'est une solidarité active et qui peut s'éprouver sur le terrain. La preuve, c'est que on le voit en 1900 sur les terrains de lutte, notamment au niveau des caves coopératives dans tout le sud de la France. Qu'est-ce que c'est au fond qu'une cave coopérative? C'est très intéressant. C'est justement ça l'intelligence sociale. C'est des producteurs et des consommateurs qui s'associent les uns les autres autour d'un produit, le produit de la vigne, et qui essaient de penser ensemble une solidarité qui leur permet d'échapper à ces deux termes dont j'ai parlé auparavant et de mettre en œuvre cette intelligence sociale. Je te prends un deuxième exemple qui est aussi assez remarquable, que comme par hasard, justement, on essaie d'enterrer et de bombarder aujourd'hui. C'est la sécurité sociale. Que je sache, la sécurité sociale, lorsqu'elle est mise au point, c'est quoi? C'est une expérience mutuelle, c'est une expérience de mutualisme. Mais cette expérience de mutualisme, d'où est-ce qu'elle vient? Elle n'est pas une décision de l'État. Elle n'est pas simplement non plus des individus qui vont prendre des assurances privées. C'est justement, là encore, une expérience coopérative, une expérience sociale, et qui marche au plan d'une nation, au niveau d'une nation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, pas seulement de la bricole ou de l'utopie, mais il y a quelque chose qui est vraiment opératoire, qui a été travaillé par Mauss, pas simplement théoriquement à travers son anthropologie, mais politiquement aussi, comme une alternative crédible aux bourses en action. Enfin, aux actions en bourse, pardon.
Et tout à l'heure, nous avons lu Smith. Smith qui nous parlait du brasseur de bière. Bière anglaise, dont vous savez ce qu'il faut penser. Et qui vante le mérite de l'égoïsme du brasseur. Et de l'autre côté, vous avez un texte admirable de Marcel Mauss. C'est un discours au Congrès national et international des coopératives agricoles socialistes en 1900. Et voici ce qu'il dit. Pour les achats, rien de plus simple. Dans toute la France, on peut avoir, vous entendez, des vins excellents, purs, même dans le Bordelais. Bon, peut-être que là, c'est outrancier. À 20 francs l'hectolitre. Alors là, on croit rêver, on a les mains qui tremblent. On dit, mais ce temps est révolu. Non, mais les fêtes des Chinooks pendant 6 mois, nous aussi, on peut les faire avec des citernes à 3 balles. Supprimer tout intermédiaire capitaliste entre le producteur et le consommateur. Mettre en contact la masse, et là c'est beau, mettre en contact la masse du prolétariat urbain qui boit du vin frelaté de Bercy et d'autres usines bourgeoises. Eh bien, mettre la masse du prolétariat urbain en contact avec le prolétariat qui produit du vin excellent pour qu'ensemble ils s'associent dans un grand mouvement coopératif. Grâce à quoi, enfin, sera aboli le système marchand. Et donc, faisons œuvre sociale, faisons œuvre de sociologie scientifique, vivre le vin coopératif.
Dites-moi, cher Alain Guyard, que j'ai baptisé philosophe forain.
Ça me plaît beaucoup, je vous en remercie.
Vous dites vraiment ça à des taulards, vous arrivez, vous leur racontez cette histoire-là, et vous écoutent ou bien ils sont obligés à tâcher avec leurs boulets, leurs chaînes.
Non, c'est pas du public. C'est pas du public captif, encore que le mot est malheureux. Par exemple, cette histoire-là que j'ai un petit peu exposée dans mon patelin là-bas en petite Camargue au Kellar, je l'ai réexpliquée aux détenus que j'ai au Beaumet lundi après-midi. Et ça a marché, il y a eu de l'écho. Ça a donné lieu à un débat très intéressant.
Antoine,
mais je suis un peu ennuyé parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la question. On a répondu à la deuxième partie de la question. On a bien compris le travers, la perversion du fait d'avoir des actions en bourse. Mais qu'en est-il d'avoir des bourses en actions?
Ouais. Il y a un truc qui est aussi assez intéressant. C'est que Mauss, il se dit... Vous savez, qui de la poule ou l'œuf le premier, hein, vous savez, bon, bah, Mauss, il se pose la même question. Il se dit, tiens, ce sera intéressant de réfléchir aussi sur la question du don. Je me sens obligado, hein. Je me sens obligé à l'égard des autres, hein. Je vais rencontrer quelqu'un, je viens avec le présent. Je fais la coutume quand je vais en Nouvelle-Calédonie. Et Mauss, il se dit, mais c'était quoi le premier don, ma parole? C'est ça, il se pose une question toute simple, hein. Qui a commencé le premier, hein? Qui a lancé le premier ces obligations de réciprocité qui vont fortifier l'expérience sociale? Et d'où ça vient? D'où ça vient que cette expérience du don, cette pratique du don, on la retrouve partout. Et on la retrouve encore chez nous. Même broyés que nous sommes par l'économisme marchand, quand on se rend visite les uns les autres, vas-y qu'on arrive avec une bouteille de rouge, un bouquet de fleurs, un paquet de bonbons pour les mômes. Donc pourquoi c'est aussi tenace et d'où ça vient? Et moi aussi dit, faut pas chercher très loin en définitive. Le premier des dons qu'on n'est pas capable de rembourser en quelque sorte, nous dit Mauss, bah c'est le don de la vie. C'est-à-dire que naître, c'est déjà quelque chose qui a été fait pour nous, par nos parents, mais dans une relation qui est une relation pas de donnant-donnant. Parce que quand le père et la mère font un môme, c'est pas dans l'idée d'avoir un retour, puisque le môme survivra et les parents disparaîtront. On n'est pas dans un échange, on n'est pas dans une tractation. Ma parole, le gosse, il va pas avoir un contrat qu'il va signer avec ses parents, un protocole d'accord où à 18 ans, il va rembourser tous les biberons et toutes les couches qu'il aura payées pendant les premières années de sa vie. Et cette espèce de générosité première qui fait que des gens à 20 ans ou à 30 ans, ils décident de faire des gamins, cette générosité première, eh bien, Mauss, elle dit, elle est partout là présente et c'est là où s'enracine le don. Donc, cher Antoine, pour répondre à ta question...
Je vois la réponse. Allons-y.
Tu la vois venir?
Je vois la réponse.
Bon, ouais. Ben, au fond, la réponse, elle est là.
C'est une réponse qui ballotte.
Oui, c'est vrai.
Je propose que la dernière phrase...
Oui.
On joue avec les auditeurs à mettre au féminin. C'était un jeu que proposait Georges Perec. Il s'agit de mettre au féminin la phrase suivante. Mon pain ballot dans mon culot. Merci Alain Guyard, philosophe forain. À bientôt. Merci Alain Guyard, merci à Lionel Roux, photographe officiel de la Transhumance en petite Camargue et pleine de la Croix. Alain Guyard, vous pouvez le voir au Quélard, en Petite Camargue, Bouches du Rhône, le vendredi prochain. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, notamment le site de l'association, leur association de ces philosophes singuliers, le Diogène Consultant, www.diogenconsultant.com. Et puis, je vous rappelle, lundi 20h, Théâtre de Jazet à Paris, 41 boulevard du Temple, dans le 3e arrondissement. La deuxième audience de l'odieux procès fait à l'homme politique le plus populaire de France, Bernard Kouchner. Réservez vos places au 01 48 87 52 55. 01 48 87 52 55. Et puis Chomsky et compagnie, un peu partout en France, consultez le programme. On se retrouve demain à 15h pour la base, à 15h pour la base si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve à Montpellier, Nîmes et Avignon au cours du week-end. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut à tous.